Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Bonjour Turbine en direct de sur Station B à Caen et en différé sur Radio Pulse à Alençon. Ce soir avec Lise, nous évoquerons la santé des femmes et les nouvelles opportunités qui existent. Pour aborder ce thème, nous pourrons compter sur nos invités Luciole Defeu, humoriste stand-upeuse, et Marie Papon, ostéopathe et danseuse. Nous avons aussi la chance d'avoir en plateau notre technicienne, the queen of the régie, Marie, bonsoir. Marion, je me suis trompé, j'ai fait une petite... On a des Marie et des Marion, alors du coup je me trompe. Nous avons également Thaïs. Nous saluons aussi nos amis Thomas, Florian, Lafken, Raphaël et Alain, qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas en plateau, mais il a préparé une petite chronique que nous écouterons tout à l'heure. Mais pour l'heure, je laisse la place à Lise.
Bonsoir à toutes et à tous. En cette veille de Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars, notre équipe avait à cœur de se saisir d'un sujet qui est plus que d'actualité, celui de la santé et plus précisément de la place qui est faite aux femmes et à leurs besoins dans un espace marqué par une vision patriarcale et des stéréotypes de genre qui ont et qui peuvent encore coûter la vie. Parler de santé, c'est aussi parler de bien-être, de santé mentale. C'est un sujet qui nous invite à voir comment, à travers le soin du corps et de l'esprit, par les arts ou encore l'humour, on peut se réapproprier son corps et son récit de vie. Nos invités nous le prouvent à travers leurs métiers et leurs histoires. Luciole Defeu, artiste humoriste qui nous parle du stand-up comme un espace d'acceptation de soi, d'épanouissement et de déconstruction des genres. Marie Papon, ostéopathe danseuse, nous présente ses projets alliant soins médicaux et art-thérapie en faveur d'une médecine plus intégrative alliant corps et esprit. Thaïs nous parlera des inégalités de genre dans les diagnostics médicaux. David nous fera la vraie fausse histoire de l'art-thérapie. Et Hélène esquissera une histoire de la lutte pour le droit à l'avortement en France. Ce qu'on va analyser aujourd'hui ensemble, c'est la manière dont les femmes ou les personnes se reconnaissant comme femmes font bouger les lignes. En tant que patientes, lorsqu'elles prennent la parole pour pointer des dysfonctionnements, voire des violences dont elles peuvent être victimes dans leur parcours de soins, mais aussi en tant que praticiennes, lorsqu'elles ouvrent la porte à des médecines complémentaires pour contrebalancer l'approche restrictive du soin purement médicamenteux. Alors, les femmes sont créatrices d'opportunités formidables pour renouveler notre rapport à notre santé et créer des parcours de soins et d'accompagnement plus complets, plus pertinents et plus à l'écoute des besoins de toutes et toutes. Vous êtes bien dans Bonjour Turbine et aujourd'hui notre sujet c'est femmes, santé, de nouvelles opportunités. Et on va commencer avec toi, Thaïs, qui souhaitait nous parler des inégalités de genre dans la prise en charge médicale entre hommes et femmes. Tu soulignes notamment comment les représentations de genre jouent un grand rôle dans le diagnostic de maladies et l'interprétation des symptômes médicaux, augmentant les risques de mauvaise prise en charge et même, à certaines femmes, la vie.
Exactement. Alors, les inégalités hommes-femmes dans le domaine de la recherche médicale incluent sans grande surprise de nombreux sujets importants comme les inégalités dans l'accès au travail, des salaires, le manque de considération des femmes scientifiques dans l'histoire, et j'en passe. Je vais aborder ici plutôt les inégalités de représentation des femmes dans les études de recherche médicale, car on observe un manque de données sur les spécificités de certaines maladies sur le corps des femmes. Avant de commencer, je précise pour cette chronique que je vais nommer hommes et femmes d'un point de vue simplement biologique. Donc le terme femme désigne les femmes cis et hommes les hommes cis. Si inclure déjà les femmes dans la recherche n'a pas été simple, vous pouvez bien imaginer la difficulté de trouver des études incluant des personnes intersexes ou faisant une transition médicale de genre. Sur ce, commençons. Pendant très longtemps, les recherches médicales n'intégraient pas ou très peu les femmes. Les recherches chez l'humain sont menées sur les hommes et celles en expérimentation animale utilisent très majoritairement les animaux mâles. Et pour cause, chez l'humain, les recherches ont volontairement exclu les femmes à partir des années 60 pour protéger l'industrie pharmaceutique à la suite d'un scandale d'une molécule provoquant des malformations chez les nouveau-nés. Et en expérimentation animale, on évite au maximum toute forme de variabilité entre les individus. Par exemple, les souris sont créées par consanguinité pour qu'elles aient toutes la même génétique. C'est donc pour diminuer la variabilité que les femelles sont exclues des études, celles-ci présentant des fluctuations hormonales pendant leur cycle. Les recherches médicales tendent cependant à aller dans le bon sens car on se rend compte qu'omettre la moitié de la population a des effets énormes et peut coûter la vie. Les études incluent aujourd'hui autant de femmes que d'hommes, mais les données sur les spécificités de certaines maladies chez les femmes sont souvent très peu connues et la représentation que l'on se fait de certaines maladies est en grande partie influencée par des stéréotypes de genre. Par exemple, si on se demande ce qu'est la toute première cause de mortalité chez les femmes dans le monde, eh bien la réponse peut sembler inattendue pour certains car c'est une maladie qu'on associe très souvent aux hommes. Ce sont les maladies cardiovasculaires. Et c'est bien à cause de l'association que l'on fait entre cette maladie et les hommes que les femmes sont prises en charge trop tard, augmentant le risque de décès. Les représentations sociales liées au genre jouent donc un grand rôle dans l'interprétation des symptômes par le corps médical. Une femme allant voir son médecin pour des maux pouvant signifier des problèmes cardiovasculaires va assez souvent se voir donner des antidépresseurs, alors qu'un homme, pour les mêmes symptômes, va directement être envoyé chez un cardiologue. On peut notamment nommer l'exemple de l'infarctus du myocarde qui a pendant très longtemps été considéré comme une maladie qu'on retrouve chez les hommes stressés, ce qui mène souvent à un mauvais diagnostic chez les femmes. Cet accident cardiovasculaire présente souvent des symptômes différents entre les hommes et les femmes. Par exemple, les femmes présenteront surtout des nausées ou douleurs dans le dos, plutôt que dans le thorax chez les hommes. Ainsi, la méconnaissance des symptômes spécifiques chez les femmes induit chez celles-ci un appel plus tardif des urgences. Mais les stéréotypes de genre concernant les maladies n'impactent pas seulement les femmes. En effet, certaines maladies considérées comme féminines peuvent tout aussi bien atteindre les hommes. Par exemple, l'ostéoporose est considérée comme une maladie de femmes ménopausées, mais des hommes peuvent en être atteints et sont souvent diagnostiqués que tardivement. Pareil pour la dépression, qui est beaucoup plus souvent diagnostiquée chez les femmes. Les hommes peuvent présenter cependant d'autres traits que l'on associe peu à la dépression, comme l'agressivité ou l'addiction, écartant donc le diagnostic. Pour conclure, ce qui est important à retenir est que l'association d'une maladie à un genre peut être dangereuse et il faut avertir non seulement le grand public, mais aussi former le personnel médical sur ces données. Heureusement, aujourd'hui, les recherches atteignent l'égalité dans la proportion de femmes et d'hommes étudiés. Il manque donc plus qu'à défoncer les stéréotypes de genre à l'aide d'un concept un peu sous-coté mais potentiellement capable de régler tous les problèmes mondiaux, la communication. Ici, la communication autour des différentes maladies qui peuvent, au final, toucher tout le monde.
Merci beaucoup Thaïs pour cette excellente chronique. La communication donc indispensable pour un monde plus équilibré et où on s'écoute davantage les uns, les unes et les autres. Parler, justement, s'exprimer, c'est le métier de notre première invitée de ce soir. Et j'ai l'honneur d'accueillir en plateau avec nous aujourd'hui Luciole Defeu, artiste humoriste stand-upeuse qui a commencé sa carrière très récemment, mais qui a derrière elle un très beau et long voyage militant qui l'a amené jusqu'à la scène et jusqu'au micro ouvert. Luciole, en 2017, tu as 21 ans et tu es au contact de milieux militants et du centre LGBT de Caen. Et c'est là que tu entames un voyage très personnel. En 2019, à l'occasion de la journée du souvenir trans, tu prends la parole lors d'un petit événement public pour lire un texte que tu as écrit où tu parles de toi et de ta révélation. Et là, pour toi, c'est le début de l'écriture d'un humour qu'on pourrait peut-être qualifier d'incisif, en tout cas de novateur. Et tu te lances dans ce stage de stand-up à Paris avec un tournant en 2022. Et c'est en 2023 que tu décides de t'y donner à plein temps. Tu m'as décrit cette porte ouverte vers la scène, et je te cite parce que c'était très beau, comme un espace où tu t'autorises enfin à découvrir qui tu as choisi d'être, grâce à la scène, mais aussi grâce aux coulisses où tu as rencontré une constellation de personnalités lumineuses. Bonsoir Luciole.
Bonsoir.
Vraiment ravie de t'avoir avec nous. Merci d'être présente sur le plateau.
Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très cool. Ça fait plaisir.
Génial. Donc là, on a fait un petit peu un petit storytelling de ton parcours, mais on avait vraiment envie de t'écouter sur ton parcours à toi et si tu voudrais bien nous décrire ton parcours dans le stand-up et comment il s'est inscrit aussi dans ton voyage personnel. En tout cas, tu pourras choisir les mots que tu veux pour en parler. Et il y a plusieurs événements marquants dont tu m'avais parlé quand on s'était entretenu ensemble avant de se rencontrer en plateau. Et notamment des personnes ressources qui t'ont accompagné dans ce voyage-là, à la fois dans le stand-up et dans ton voyage personnel.
Oui, alors effectivement, ça a commencé au moment où j'ai fait cette espèce de chronique, du coup, à l'époque, pendant le Journée du Souvenir Trans, où on m'a dit, mais en vrai, vas-y, fais du stand-up, ça marche trop bien ton truc. Et je me suis dit, let's go. En plus, je commençais à transitionner et donc à admettre que j'étais une meuf, et ça réglait pas mal de choses dans mon esprit. Le genre, c'est toujours une question qui est très longue à résoudre. Et en fait, il y a eu donc tous les confinements successifs qui m'ont empêché de commencer vraiment la scène. Donc j'ai transitionné dans mon coin d'une certaine manière dans un premier temps, et je suis effectivement arrivé sur scène avec des textes un peu engagé, incisif, comme tu disais, et où je parlais beaucoup de ma transition, de mon rapport avec les gens, et au début de manière assez agressive, et au fur et à mesure je me suis adouci et je l'ai pris avec beaucoup plus d'humour pour me correspondre beaucoup mieux, et ça m'a adouci non seulement sur scène mais aussi en dehors, et c'était effectivement au contact de certaines personnes, et notamment une personne avec qui j'étais à l'époque qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a aidé à écrire des textes et qui m'a dit d'adoucir certaines choses, et les personnes de mon entourage, les personnes du centre LGBT qui m'ont accompagné aussi, centre LGBT de Caen, qui m'ont accompagné aussi dans ma transition, qui m'ont permis d'avoir accès à pas mal de choses. C'est ça, c'est des personnes qui m'ont permis d'arriver à adoucir au bout d'un moment mon texte avec différentes histoires, avec différentes réflexions personnelles. Et aujourd'hui, je suis très fier de ce que je fais et de ce que je propose. Ça me correspond de mieux en mieux, en fait, au fur et à mesure.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu aurais transitionné de la même manière sans le stand-up ? Et est-ce que tu aurais fait du stand-up sans cette transition ?
C'est une très bonne question. En vrai, le stand-up, j'ai toujours voulu en faire, je pense, inconsciemment. C'est un peu cliché, mais je refaisais les sketchs de certains humoristes au collège, dans la cour et tout. Donc, je pense que ça a toujours été un truc un peu présent, mais je sais pas si j'en aurais fait sans transitionner, parce que la preuve en est, je parle pas de beaucoup d'autres choses que de ma transition. Après, peut-être que c'est parce que je suis au début et que c'est vraiment le truc le plus remarquable chez moi, je pense. Ma transition, le stand-up m'a aidé à transitionner de cette manière-là, en tout cas, et les deux se sont croisés, j'ai pu me trouver plus vite, savoir mieux ce qu'était mon genre avec le stand-up, parce que justement les gens voyaient ce que je disais dans le stand-up, qui étaient des choses que j'osais dire à personne, c'était des choses que je disais sur scène, ce qui est bizarre du coup, un peu paradoxal. Mais
la scène, c'est devenu ton miroir.
Ouais, j'aime bien cette façon de le dire, ouais, on peut dire ça, je pense. C'est devenu, je sais pas si c'est devenu mon miroir, mais c'est devenu la facette cachée de ma personnalité, tu vois. C'est...
Ok. Et quand on avait discuté ensemble, tu m'avais dit quelque chose que j'avais trouvé très intéressant. C'est que tu m'as expliqué une forme de dilemme que tu avais eu dans ton parcours trans, de te dire les personnes trans, on n'a plus envie d'être surmédicalisées, arrêter de nous médicaliser parce que on peut parler aussi de la question de l'accès aux hormones, etc., qu'il faut passer par une psychiatre. Donc il y a une forme de... Il a fallu attendre très longtemps pour que l'Organisation mondiale de la santé cesse de considérer les questions de genre comme une pathologie mentale. Donc cette question de pas surmédicaliser. Mais par contre, toi, tu as ressenti à un moment un besoin d'accompagnement psychologique, en tout cas quelque chose qui pourrait soutenir ta santé mentale, tout en te disant bah « non, mais j'ai pas besoin d'aller voir une psy ou une psychologue ou une psychiatre ». Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce dilemme-là, et peut-être aussi comment le stand-up a pu potentiellement jouer un rôle pour accompagner ta santé mentale à ce moment-là ?
En fait, pourquoi je dis qu'il faut pas nous surmédicaliser ? Parce que on nous prend un peu trop par la main quand on veut transitionner, alors que c'est nous qui savons probablement le mieux ce qui est bien pour nous. Moi, je me suis entouré au maximum pour savoir vraiment vers quoi me diriger et ce que je voulais. Donc les personnes du centre LGBT, encore une fois, et d'autres personnes, aussi des amis, des proches, des personnes trans que j'ai rencontrées et qui m'ont aiguillé. Après, moi, dans mon cas, effectivement, je savais qu'il fallait, pour pouvoir avoir accès aux hormones féminisantes, du coup, dans mon cas, il fallait avoir l'aval d'un psychiatre ou d'une psychiatre. Donc, j'ai choisi minutieusement quel psychiatre j'irai voir, en allant la voir et en lui disant je veux une attestation et c'est tout, et je veux pas parler de ma vie, en gros, quoi. Donc, on a quand même fait une séance, mais à la fin, elle m'a fait une attestation en une seule séance. Alors que, normalement, légalement, le cadre voudrait qu'on ait vraiment un accompagnement psychiatrique long pour voir que cette décision est vraiment la bonne, etc. En fait, je pense que le fait d'obliger à ça, ça empêche certaines personnes d'avoir un vrai suivi psychologique dont elles pourraient avoir besoin. En fait, je pense que le proposer serait beaucoup plus
respectueux.
Ouais, respectueux, et en fait, ça porterait beaucoup mieux ses fruits plutôt que de nous imposer quelque chose. Je pense que quand on propose quelque chose à quelqu'un, il est plus à même de l'accepter que si on lui impose, en fait.
Et ça m'amène à te poser une question qui nous permet aussi de faire le pont avec notre autre invité, s'il a envie de réagir avec nous. Mais sur le rôle que l'art et la scène, ça peut jouer dans le bien-être et dans notre équilibre en général, voilà, en tant que personne, comment est-ce que c'est un espace d'épanouissement aussi ?
Oui, ça rejoint un peu la fin de ta question à laquelle je n'ai pas répondu juste avant.
Pas de souci. Tu vois, je rattrape.
Bien joué. Donc, le stand-up, ça m'a accompagné, ça m'a permis de me rendre compte de choses beaucoup plus rapidement, comme je disais, parce que j'avais des retours de personnes, etc. Pardon, je touchais le fil. Et moi, ça m'a donné beaucoup de bien-être de pouvoir être sur scène, parce que ça me permettait d'être enfin moi, d'une certaine manière. Enfin, c'est très particulier, la scène, parce que il y a ce truc où on est devant beaucoup de monde, parfois. Et pour autant, c'est là où on livre le plus de trucs et où il y a le plus de mise à nu, des fois, sur notre vraie personnalité, entre guillemets, et tout ça. Je ne sais pas si tu le ressens pareil que moi, Marie, mais moi, ça me fait ça, en tout cas.
Oui, en tout cas, ce que je voulais peut-être ajouter pour compléter, c'est que c'est des moments aussi d'écoute et de présence collective très particuliers et différents du quotidien ou du contexte du soin, par exemple. Et je pense que c'est des endroits surtout qui peuvent permettre de la transformation de plein de manières différentes, que ça soit à l'endroit du plateau, c'est-à-dire être sur scène et performer, à l'endroit du public, c'est-à-dire recevoir. Peut y avoir un effet cathartique, mais c'est valable pour l'art en général, en fait, pas que l'art vivant, mais particulièrement l'art vivant dans ce qui convoque de nos présences et de nos corps.
Je vois. Et dans cette approche transformatrice que tu décrivais, Marie, de l'art et de la scène, est-ce que tu as déjà adressé des questions de genre dans les personnes que tu as rencontrées ou des publics que tu as accompagnés ?
Au plateau ? Enfin, par rapport à la création artistique ou...
Dans la création, dans les échanges ou...
Alors, moi, je suis très... j'ai une attention particulière... pour la santé des femmes. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard dans l'émission, dans ma pratique de soins. Dans mes pratiques artistiques, pas directement. Mais après, j'ai la sensation que, comme c'est des questions qui m'habitent profondément, ça doit forcément s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, ça n'a jamais été un sujet. Pour la création.
Très bien. Et si on revient un tout petit peu au monde du stand-up, on en avait parlé un peu ensemble par téléphone, Luciole, c'était cette question de le milieu du stand-up aujourd'hui, est-ce qu'il est inclusif ? Et comment ça se passe dans les milieux artistiques ? Parce que je pense notamment, il y a eu quand même toute cette vague MeToo. On dit qu'il y a eu le MeToo du cinéma, il y a le MeToo du sport, ensuite il y a le MeToo, il y a eu un MeToo du stand-up, j'ai cru comprendre aussi, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Il y a certains milieux où c'est la cata, hein, comme le cinéma, et on a envie de citer Adèle Haenel en 2020 qui dit « on se lève et on se casse parce qu'on n'en peut plus ». Voilà. Est-ce qu'il y a des milieux artistiques qui sont moins touchés que d'autres par des violences sexistes et sexuelles et par cette omerta patriarcale ? C'est comment dans vos milieux respectifs, Luciole et Marie ?
Moi je trouve que je pense pas qu'il y ait de milieu artistique qui soit épargné, ou même de milieu qui soit épargné de manière générale, du moment qu'on est dans une société patriarcale et qu'il y a des personnes qui se sentent intouchables et qui se sentent tous les droits en fait sur les corps qui leur appartiennent pas. Je pense qu'à partir de là, il n'y a personne qui va être épargné. Et là, il y a le MeToo stand-up. J'en place une pour Florence Mendes qui, du coup, a vraiment porté le truc au début un peu en solo. Heureusement, elle a eu beaucoup de soutien. Mais je veux dire, c'est elle qui a pris beaucoup de vagues de haine quand elle a parlé du MeToo stand-up au départ. Et donc, pour dénoncer Seb Melia. Ça a démontré que c'est pas parce que le milieu du stand-up, c'est un milieu qui est un peu... underground, un peu plus caché, qu'il se passe rien, quoi. Moi, je le sens, il n'y a pas de parité sur les plateaux, et c'est difficile en tant que meuf de trouver un plateau, que ce soit meuf trans ou meuf cis. D'ailleurs, j'ai pas mal de potes qui galèrent à trouver des places, et on m'a déjà fait entendre, oui, mais la parité, on peut en débattre, en vrai, il y a moins de meufs qui font du stand-up. Oui, mais les meufs galèrent plus que les mecs à trouver des places, donc même s'il y en a moins, il y a un problème de toute façon.
Un problème systémique, oui.
Bah ouais, en fait. Et moi, ça m'énerve cet argument, mais...
Je vois. Et toi, Marie, alors ?
Ben, il n'y a pas eu de MeToo dans le milieu de la danse, mais je l'attends avec impatience, oui. Parce que je pense que c'est très présent et que là, on parle beaucoup de cinéma et donc on commence un peu à parler de théâtre aussi. Mais la danse est très, très concernée et j'en parlais il y a quelques jours avec des amis. En fait, on utilise nos corps et on n'a même pas la voix dans beaucoup de projets de danse. Donc il y a vraiment, je pense, quelque chose... Oui, qui, qui va sortir, je pense, bientôt. Enfin, je le souhaite en tout cas. Petit appel.
On va préparer vos hashtags parce que bientôt sur Twitter, on verra le MeToo de la danse.
Ouais, puis c'est vraiment, enfin, il y a des milieux où c'est vraiment un secret de polichinelle. En fait, tout le monde est au courant de qui il faut pas fréquenter.
Et puis c'est tellement inscrit que on sent, enfin voilà, on a du mal à s'en rendre compte, en fait.
Et je crois, Luciole, que tu avais aussi envie ce soir, avec notre suggestion, de nous faire part de tes talents et de nous faire une petite chronique humoristique. Et du coup, on est prête à t'écouter juste après ce petit jingle.
T'en as pas deux sur le continent, certains me le confirment que c'est la forme et le fond et le sentiment. Je suis pas dans les consignes, boy, j'ai de quoi te faire passer le bon dimanche. Certains me le confirment que c'est la forme et le fond et le sentiment. Je suis pas dans les consignes.
Allez, trop bien. C'est au tour de la Tantouse de faire sa chronique. Bon, je suis obligé de prévenir par professionnalisme. Ici, c'est une radio libre, m'a-t-on dit, où on ne se censure pas. Donc je fais un petit disclaimer parce que ça va envoyer. Je vais être aussi corrosif que le glyphosate dans un tampon. Alors, bonjour. Moi, j'ai grandi à Cherbourg. Ouais, là, vous vous dites que ça va être soporifique. Eh bah, tant pis pour vous. Et de toute façon, il va falloir vous y faire, parce que vu la gueule du climat, ça va vite devenir le seul endroit habitable, Cherbourg. Donc commencez à investir, on va tous te finir là-bas. Cherbourg, c'est la dernière escale du Titanic, pour vous dire, avant de couler. Sympa comme présage. Ceci dit, heureusement que Rose et Jack sont restés sur le bateau, parce que si elles étaient descendues à ce moment, elles seraient juste sous antidépresseurs aujourd'hui. Eh ben, moi, c'est là-bas que j'ai passé mon enfance. Et que j'ai côtoyé des personnes assez particulières dans les repas entre amis. Entre amis de mon père, surtout. Disons que si Michel Leeb avait voulu recruter des Avengers pour couvrir toutes les oppressions, c'est vers eux qu'il se serait tourné. Le truc, c'est qu'ils sont tous très polyvalents, mais sont encore plus forts en groupe. Ils arrivent à rendre gênante n'importe quelle situation, rien ne leur fait peur. C'est genre, dans un monde où les gens veulent seulement passer du bon temps entre amis, où femmes et enfants s'efforcent de s'entendre alors qu'eux ne se voient qu'une fois par an, et on sent qu'il suffirait de pas grand-chose pour que ça parte en couille, mais oui, d'accord, on va goûter ta Macédoine, Karine. Cinq hommes se galvanisent d'avoir ouvert le vin et cuit deux saucisses, alors que mesdames ont tout préparé. Cinq hommes perturbent l'ordre établi. Ensemble, et doués d'un égoïsme exacerbé qui leur permet d'ignorer qu'ils sont les seuls à s'amuser, ils s'érigent en maîtres et dominent tout par la gêne de blagues grasses, de hurlements bovins et de mimes de l'acte sexuel entre eux. Parce que faire semblant de baiser des garçons quand on est un garçon, c'est marrant. On les appelle les hommes cis hétérosexuels. Et je pense que vous avez les mêmes à la maison. Peut-être que vous en êtes vous-même d'ailleurs. Auquel cas, arrêtez, c'est gênant. Il n'y a que vous que ça amuse, vraiment. Au fait, les mecs cis, petit rappel, c'est les hommes cisgenres, ceux qui ont été assignés hommes à la naissance et que c'était pas une erreur. Alors vous êtes plein, hein, pas de panique, vous allez pouvoir continuer votre solidarité entre couilles après la chronique, à vous dire « Ouais, tatati, quand même, tatata, c'est du sexisme envers les hommes, tatati, je suis pas venu ici pour me faire insulter. » Et moi non plus, je suis pas venu ici pour me faire insulter, sauf qu'entre nous, c'est vous qui allez rentrer sans peur de la nuit, qui allez cuisiner votre spécialité, les pâtes au beurre, et c'est vous qui avez un livre neuf de Mona Chollet jamais ouvert dans votre bibliothèque et qui pensez que ça vous rend féministe. Non mais je te jure, ils m'énervent des fois rien que de voir leur tronche dans la rue avec leur grosse tête identique là. Brrr, ça me fait froid dans le dos. Je comprends que vous réclamiez une hétéro pride, pour certains, la vache, vous avez des réclamations à faire. On veut du goût, on veut du style, notre ego est fragile. Moi, ce que j'aime le plus chez vous, messieurs, c'est votre ego. Votre ego, si ça devait être un truc concret, ce serait un gros ballon de baudruche en côte de maille, avec des grosses baloches en dessous. Et si t'appuies dessus, voire que tu le pointes du doigt... Et la preuve, c'est que vous êtes déjà en train de penser à des arguments pour dire que j'ai tort et que vous n'êtes pas susceptible. Arrêtez, vous êtes plus susceptible que Cyril Hanouna quand on lui parle de Bolloré. Mais ce soir, vous m'avez écouté pour une fois. Et même si c'était juste par politesse et que je vous ai pas mal saoulé, je voulais vous remercier quand même. Merci. Franchement, vous pouvez être fiers de vous. Voilà, faut pas exagérer non plus. Quant aux meufs et aux minorités de genre présentes, à mon écoute en tout cas, vous aussi, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, je vous aime fort. Et vous aussi, messieurs, prenez soin de vous. Arrêtez d'attendre qu'on le fasse à votre place. Par contre, méfiez-vous des effets secondaires. Moi, quand j'ai commencé à prendre soin de moi, j'ai transitionné.
Merci, Luciole.
Merci beaucoup.
Merci pour cette chronique en direct, qui était une première pour toi, je crois, une chronique humoristique en direct.
Oui, c'est une première. Bah,
bravo.
Je tiens à dire à mon père que ce n'est pas spécialement ciblé contre lui. C'est pour faire une caricature, vraiment, qu'il le prenne pas mal.
C'était super, en tout cas. Merci, tu nous as beaucoup fait rire. Et je crois qu'on va passer à une petite pause musicale maintenant, David.
Tout à fait, oui, avec un groupe que notre ami Thomas a découvert lors de la réalisation d'un documentaire sur le rock belge. Donc, il s'agit de Ben Lacour, qu'il a rencontré donc, lors de ce documentaire et qui lui a expliqué qu'en 2022, il avait fait un burn-out. Aussi, alors de cette période, il est parti en vadrouille avec son chien et tous les jours, il a composé des musiques et au final, il en est sorti un album dont voici un extrait.
Bye.
Et donc, c'était Diva Divin et son titre Voyage. Et maintenant, on va passer à la chronique de David. David, je crois que tu nous as fait une petite histoire de l'art-thérapie. Et toi, en tant que grand reporter, tu aurais rencontré Alexandra Belle-Lurette, la spécialiste de l'art-thérapie. J'ai hâte de voir ça.
Tout à fait. Alors, elle m'a fait un petit écrit, je vais vous le lire. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Alexandra Belle-Lurette, historienne et spécialisée notamment dans les indices archéologiques qui permettent d'éclairer le passé. Par exemple, dater le nez de Cléopâtre, l'odeur spécifique des chaussettes de l'archiduchesse, quel était l'auteur des fables de La Fontaine, ou de quelle couleur était le cheval blanc d'Henri IV noirci par la poussière et rougi par le sang. Aujourd'hui, à l'occasion de Bonjour Turbine, je me penche sur l'histoire de l'art thérapeutique à la demande de Lise. C'est un sujet qui me passionne depuis ma tendre enfance, quand je gribouillais sur les cahiers et mes livres de maths pour me venger des tables de multiplication. En effet, l'objectif de l'art thérapie est de permettre aux patients de se libérer de ses angoisses tout en se défoulant. Il s'agit d'exprimer ses sentiments, ses ressentis ou ses craintes à travers la création. Cette approche est indiquée chez les personnes qui peinent à exprimer ce qu'ils ressentent par des mots. Les muets, les sourds, les maris brutaux, les furies, les compagnies de CRS, à condition qu'ils échangent leur batte de baseball contre une boîte de peinture à l'huile de foie de morue. Prenez par exemple les hommes de Cro-Magnon qui, comme leur nom l'indique, passaient leur temps à se donner des nions. Eh bien, pour se calmer, ils dessinaient et gravaient des mammouths sur les parois de leurs grottes à Lascaux ou à Pont-Aven, en grignotant des galettes ou en suçant des silex. L'histoire regorge d'exemples. La reine Mathilde soigna sa dépression en raccommodant la tapisserie de Bayeux. Henri IV, roi de Navarre, révolutionna l'art culinaire, en mettant la poule au pot. Le prince Charles d'Orléans, poète mélancolique, faisait des vers en allant à la pêche. Ne vaut-il pas mieux que de partir à la guerre ? Quel dommage qu'Adolf Hitler ait renoncé à l'aquarelle pour devenir chancelier du Reich. Il aurait eu le droit de bénéficier de l'art-thérapie remboursée par la sécurité sociale. Picasso était un tagueur invétéré, on ne nous dit pas tout. Mais c'est lui qui a barbouillé tous les murs de la SRC, de la SNCF, depuis la gare de Lyon-Perrache jusqu'à 20 000. C'était pour lui une thérapie, une façon d'amorcer les changements intérieurs nécessaires à son bien-être psychique. Plus près de nous, moi qui vous parle, je me souviens encore qu'en 14, après la guerre, certains poilus pouvaient faire de magnifiques œuvres avec du pain demi-tranché. Il faut dire que les tranchées, c'était un peu leur spécialité. Louis Garniton, un gars un peu gore, avait reconstitué la bataille de Verdun en prenant de la confiture de fraises en guise de sang et du Nutella pour la boue. Une œuvre d'art-thérapie des plus significatives du 19e siècle. Tous les supports sont bons, la sculpture pour les plus brutaux, l'écriture pour les gauchers, la pâte à modeler pour les tripatouilleurs et les cocottes en papier pour ceux qui rêvent d'une basse-cour. Maintenant, si vous avez besoin pour vous-même de l'art-thérapie, je dois vous mettre en garde, certains établissements non agréés art-thérapie sont assimilés à des sectes. Le professeur Chabriman demandait une somme mirobolante à ses patients et leur faisait enfiler des perles et des colliers de nouilles en prétendant que c'était de la joaillerie. Heureusement, il fut arrêté lors de la célébration de la fête des coquillettes Place Vendôme. À l'heure actuelle, dans mon établissement, j'ai des demandes pour plusieurs cas graves de dirigeants étrangers auxquels je recommande vivement d'essayer l'art-thérapie. L'un d'entre eux a tendance à tout peindre en orange et s'exprime comme le canard de Disté. Un peu grincheux, il a construit un mur qu'il veut taguer rien que pour embêter Speedy Gonzalez, la souris la plus rapide du Mexique. L'autre personne, un peu ours, voudrait tout peindre en rouge, même le voisinage qui ne lui appartient pas. Je lui conseille de s'inspirer en peinture de l'art pompier, du fauvisme ou mieux le suprématisme. Il pourra s'y exprimer à loisir et donner libre cours à ses fantasmes. La guérison n'est pas certaine, mais l'art-thérapie mérite d'être tentée. C'est pour un art pour soi, un art en soi. Et parfois, comme dit ma marchande de poissons, tout l'art en sort.
Merci David. Merci, merci. Et effectivement, vu les comportements extrêmement problématiques de certains peintres que tu as cités ou de certains dirigeants, ils auraient bien besoin de faire un peu d'art-thérapie, effectivement. Et aujourd'hui, pour parler de comment l'art peut s'intégrer à des parcours de soins, et notamment l'art vivant et notamment la danse, on a le plaisir d'accueillir Marie. Marie, que tu as, avec qui tu as pu échanger, David.
Un petit peu, non, elle a eu Thomas, en fait. Et donc, comme Thomas, malheureusement, n'est pas avec nous, il m'a dit,
le relais.
Écoute, on va recevoir Marie. Alors, merci Marie d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Bonsoir
aussi.
Et bienvenue
bonsoir.
Dans Bonjour Turbine.
Bonsoir.
Donc, tu es ostéopathe et danseuse, c'est bien ça?
Oui, alors je suis plus précisément thérapeute manuelle. Je pratique la méthode Poyet, qui est une pratique qui est issue de l'ostéopathie. Je précise parce que c'est important
D'accord. Eh bien,
dans ces termes-là.
Je vais tendre le bâton de parole à Lise pour les premières questions.
Bonsoir Marie, donc merci encore d'être avec nous. Merci de rectifier ta présentation, c'est très important puisque les mots ont leur importance, surtout quand il s'agit d'exprimer son métier, sa pratique et comment on l'envisage. Et justement, est-ce que tu peux nous préciser un peu comment tu envisages ta pratique à toi et est-ce que tu étais ostéopathe et puis tu as été danseuse? Est-ce que tu étais danseuse puis tu es ostéopathe? Voilà, comment les deux se sont imbriqués? Toi aussi, tu as plusieurs parcours en même temps. Est-ce que tu peux nous en dire plus et comment ça influence ton métier aujourd'hui?
Oui, avec plaisir. Moi j'ai été danseuse, je le suis encore, j'ai été danseuse pendant 20 ans, donc j'ai vraiment été interprète, j'ai mené mes propres projets aussi, j'ai aussi beaucoup transmis, donné des ateliers, fait des créations aussi avec des publics variés, beaucoup d'enfants notamment. Et c'est à partir de, je dirais, 2018-2019 que j'ai commencé à me poser sérieusement la question de changer de métier, en tout cas de m'intéresser à des pratiques de soins, notamment autour de la santé des femmes. Dans mon cas, c'est vraiment l'expérience de la maternité, je crois, qui m'a accompagnée dans ce cheminement par rapport à des questions que je me posais déjà sur l'accompagnement gynécologique, des choses comme ça. Et puis aussi parce que j'ai eu la chance de vivre une grossesse et un accouchement heureux et heureuse, c'est-à-dire que les choses se passent bien pour moi. Et je crois que ça m'a donné beaucoup de force, en fait. Et ça m'a permis, en fait, aussi de me reconnecter différemment à ce que je faisais, à ce que je fais aujourd'hui et au monde de manière générale, et à me dire, OK, là, j'ai envie de changer de place. Voilà, par ailleurs, je poursuis les projets de danse et de création, mais j'avais vraiment envie de m'atteler à la question du soin et de l'accompagnement de manière plus globale, quoi.
Même si ta grossesse s'est très bien passée, ton accouchement aussi, est-ce qu'il y a eu un déclencheur parce que tu as constaté des manques ou du dysfonctionnement dans l'accompagnement et le parcours de soins d'une femme enceinte? Ou alors, voilà, il y avait ce sujet de la santé qui était présent en toi et c'est venu à ce moment-là parce que tu avais l'espace pour y réfléchir. Enfin, peut-être que c'est un peu des deux.
Oui, c'est ça, c'est un peu des deux. Disons que les questions plus de problématiques ou de dysfonctionnement, j'avais pu les vivre avant. J'en ai vécu quelques-uns pendant ce moment-là de ma vie, mais j'ai eu, disons, la chance et le privilège de pouvoir choisir aussi un accompagnement à l'accouchement avec des personnes formidables, en fait. Mais voilà, j'avais aussi les ressources et le réseau qui m'a permis ça. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et malgré toutes ces choses qui se passaient bien, ça faisait aussi apparaître quand même des questions qui sont pas du tout réglées par rapport aux politiques de santé en général et en particulier sur le corps des femmes.
Et donc tu t'es dirigée vers le toucher, ça a été ton entrée?
Alors j'ai hésité entre sage-femme et ostéo, à vrai dire. Et voilà, il se trouve que j'ai eu la chance d'être infiltrée dans un stage d'ostéopathie à destination de sage-femme, où j'étais un peu en touriste.
Le combo, tu me donnes l'adresse parce que ça doit être assez plus d'une personne.
Avec plaisir. Avec une personne formidable, que j'ai citée, qui s'appelle Elisa Boileau, qui est elle-même sage-femme et ostéopathe, qui m'a beaucoup accompagnée, inspirée, aujourd'hui encore. Et en fait, voilà, en pratiquant des gestes basiques d'ostéopathie, je me suis rendue compte déjà que ça me parlait vraiment. ensuite que c'était très accessible pour moi et qu'au final, c'était presque la même chose pour moi dans mon corps, dans comment ça venait me chercher, me convoquer dans mon état, que le fait de danser. En fait, l'ostéopathie, particulièrement aussi la méthode Poyet qui a une approche très fine et subtile du toucher, finalement, c'est comment on va mettre de l'intention dans notre geste. Et la danse, c'est la même chose. Enfin, c'est-à-dire que si je bouge, je peux gesticuler pendant des heures et voilà, ça ne va pas tellement vous intéresser ni m'intéresser. Par contre, si je mets de l'intention dans mon corps, dans mon geste, dans mes yeux, dans mes pieds, dans ma peau, voilà, dans mon imaginaire, il va peut-être se passer quelque chose et certainement se passer quelque chose. Et en fait, c'est la même chose dans le toucher ostéopathique. En tout cas, pour moi, c'est des ponts que je fais et qui m'ont permis de me dire, de choisir cette pratique-là.
Peut-être, justement, tu parles de la méthode Poyet. Peut-être nous expliquer un petit peu plus de ce dont il s'agit.
Oui, tout à fait. Donc, la méthode Poyet, donc, c'est quelqu'un qui s'appelait Maurice Poyet, qui était lui-même ostéopathe kiné, qui a aussi beaucoup voyagé en Asie, donc qui s'est aussi pas mal intéressé à la médecine chinoise, qui a développé une façon déjà de toucher qui est très légère, c'est-à-dire qu'on ne va jamais rentrer avec force, avec vigueur dans le corps, on ne va pas faire de thrust, de craquer par exemple les articulations. Ça va être vraiment presque de l'effleurement. Et pour autant, c'est vraiment l'idée de viser avec notre intention très profondément dans le corps et donc de faire bouger, de remettre en mouvement et en lien des parties du corps qui peuvent être très profondes. Et c'est aussi quelqu'un qui a vraiment créé une espèce de logique de correspondance entre des parties du corps, notamment entre le sacrum, qui est l'os central qui se trouve à l'arrière du bassin, qui ressemble à un triangle comme ça. Entre le sacrum, le crâne, les pieds, les organes. Enfin, en fait, il y a tout comme une sorte d'enquête qu'on mène en tant que thérapeute quand on a quelqu'un sur la table, qui nous permet en fait d'avoir une approche très globale et de, enfin, en général, de faire du bon travail parce qu'on va vraiment passer par plein d'endroits du corps. Si vous venez me voir pour un petit doigt cassé, je vais quand même regarder votre sacrum et votre colonne et vos organes et votre petit doigt. Mais c'est pour dire que c'est vraiment une approche qui englobe tout le corps et toute la personne aussi.
Une approche plus holistique, médecine plus intégrative. Est-ce que nous, en tout cas, c'est, quand on a préparé l'émission, c'est les termes qui revenaient un peu. Est-ce que c'est comme ça que tu le décris aussi ?
Oui, tout à fait. Après, ça, c'est l'ostéopathie en général. C'est le cas de beaucoup de médecines dites alternatives ou douces. Il y a plein de façons de nommer, mais effectivement, des médecines holistiques. Voilà.
C'est le sujet sur lequel on avait envie de te faire rebondir aussi. C'est cette question de quelle est la place aujourd'hui des médecines alternatives, complémentaires, comment elles s'inscrivent dans le paysage de la médecine dite traditionnelle, de quelle reconnaissance elles bénéficient aujourd'hui. Ça peut être un sujet épineux. Est-ce que toi, tu peux nous en dire plus ?
Alors, on a une place qui est, qui est complexe. Qui n'est pas toujours souhaitée. Enfin, là, en plus, il y a des projets de loi qui nous font comprendre qu'on n'a pas trop envie qu'on continue d'exister et d'exercer. Là, je sais que, par exemple, il y a quelque chose qui est en train de se préparer sur l'usage du mot, sur des usages sémantiques, en fait, par exemple, du mot thérapeutique, soins. Il y a des choses qui sont vraiment en train de disparaître. On ne va plus pouvoir utiliser ces termes. Après, sans doute à raison dans certains cas, mais c'est vrai que après, l'idéal, c'est de travailler en partenariat avec des soignants et des soignantes qui font partie du monde médical le plus classique et qui sont aussi ouverts et ouvertes à des pratiques complémentaires, parce qu'en fait, c'est vraiment de la complémentarité, il me semble. Après, c'est pas toujours le cas, et de manière étatique et politique aujourd'hui en France, c'est de moins en moins le cas.
Il y a une évolution quand même plutôt positive. Est-ce qu'il y a de plus en plus de praticiens, praticiennes qui sont ouverts à ces médecines-là, ou pas forcément ? Enfin, tu parlais des lois, mais chez praticiens, praticiennes ?
Alors, j'ai l'impression que, c'est peut-être mon optimisme, mais qu'il y a quand même une nouvelle génération là de médecins. C'est une profession aussi qui se féminise d'ailleurs beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de sages-femmes aussi qui prennent le relais, par exemple des gynécologues. Et donc, il y a peut-être, ça dépend en fait des territoires, je pense, des milieux, des réseaux. C'est compliqué de répondre à ça. Enfin, ça dépend vraiment des personnes.
Est-ce que c'est un mouvement qui vient beaucoup des femmes ?
Lequel ?
Ce mouvement de progression des médecines alternatives et aussi d'ouverture vers des compléments au parcours de soins traditionnels.
Alors les médecines, par exemple l'ostéopathie, c'est une profession qui a été très masculine pendant longtemps, enfin comme beaucoup de professions de santé pendant les deux derniers siècles au moins. c'est compliqué. je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de soigner, de se lancer là-dedans. Il y en a plein qui le font aujourd'hui et c'est super. Mais par exemple, si on regarde les textes, les écoles en ostéopathie, en thérapie manuelle, il n'y a pas beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont monté leurs écoles, leurs méthodes. Mmh. Voilà quoi, ça manque, mais ça va venir. On arrive.
Alors moi, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as abordé tout à l'heure sur les passerelles qui existent entre la danse et le soin. Lors de la préparation avec Thomas, il m'a dit que tu te mettais dans un espèce d'état d'esprit qui était proche de la danse pour prodiguer tes soins. Est-ce que tu peux nous éclaircir sur cette phrase ?
Oui. Alors je me mets dans un, je pense effectivement dans un état particulier. Après c'est simple aussi, hein. C'est-à-dire que c'est pas non plus très spectaculaire et puis la plupart du temps il y a que moi qui le sais. Je dois dire que je m'appuie aussi beaucoup sur un travail que je fais avec une chorégraphe d'ailleurs qui s'appelle Catherine Contour qui travaille sur l'outil hypnotique pour la création. Donc c'est-à-dire que je pratique beaucoup l'hypnose aussi pour moi personnellement et en tant que danseuse et en création. Et effectivement, je pense que pour soigner, je convoque vraiment ces outils-là, donc les outils de l'hypnose pour la création, mais aussi les outils de présence qu'on a en danse, qui sont, par exemple, se relier à ses appuis, se relier à son environnement, respirer, écouter les sons. Et effectivement, je pense aussi que dans la façon d'accueillir, d'observer, d'être en présence avec la personne, j'ai à cœur de remettre en jeu en moi des outils qui sont ceux de la danse, de la perception du corps de l'autre, de la distance. J'ai aussi beaucoup pratiqué l'improvisation en danse et c'est également un outil formidable pour moi pour le soin parce que en fait ce qu'on fait en séance c'est du vivant donc il faut vraiment aussi cet enjeu-là, ce risque aussi de je sais pas ce qui va se passer en fait, j'ai plein d'outils. Mais j'essaye d'être surtout présente à ce qui arrive. Mmh.
Et pour conclure sur tout ça, aujourd'hui, comment est-ce que tu dirais que la danse, elle peut être aussi thérapeutique ?
Alors ouais, c'est intéressant, c'est marrant parce que par exemple, moi je ne suis pas art thérapeute. Ça m'a fait rire la chronique parce que en fait, c'est vrai que il y a des personnes qui se forment à ça de manière spécifique et c'est formidable, c'est hyper important. Mais c'est vrai que je crois que je suis jamais rentrée dans un projet de danse avec cette intention-là. Mmh, mmh. J'ai comme confiance que, en fait, la thérapeutique, elle se nourrit de la vie, en fait, et des relations, de la relation au monde, à l'art, à la politique, à la société, au jeu. À la famille, mais que la thérapeutique, c'est quelque chose de vaste et de combinatoire. Moi, aujourd'hui, j'ai jamais fait de projet en me disant je vais danser pour soigner. Après, je pense que ça arrive de manière presque...
Alors, sans que ce soit le but, est-ce que la danse soigne ?
Bah oui.
Voilà, c'est très bien, mais c'est très résumé. Et puis, on le mentionne parce qu'on n'a pas forcément le temps d'en parler, mais tu fais partie aussi tu es contributrice de la compagnie Noesis, oui, qui propose des projets. Si tu veux nous en dire quelques mots très rapidement autour de la danse et tous ses bienfaits et ce qu'elle crée en collectif.
Oui, oui, oui. Et bien là, justement, je vais rejoindre un projet donc, de cette compagnie avec une chorégraphe et danseuse qui s'appelle Flora Pillet. Donc, qui a créé un projet qui s'appelle « Ce à quoi nous tenons ». Je crois que c'est la troisième année que ça a lieu. Il s'agit pour le coup, effectivement, de mettre ensemble des outils de l'art, de la danse et éventuellement aussi du soin à travers une résidence de 4 semaines qui engage un groupe de femmes le plus mixte possible en termes d'âge, d'origine, de quartier, de désir aussi d'être là. Je pense que c'est un projet, j'espère qu'il va se poursuivre parce que voilà, c'est vraiment aussi ce genre de projet dans lequel j'ai envie de venir croiser et combiner les outils que j'évoquais tout à l'heure.
Super.
Et j'ai trop hâte d'y participer. Moi, je suis en
C'est vrai, Marion, ouais. Tu vas y être. Yes, génial. Bah, Marion, elle nous fera une chronique pour nous raconter comment c'était.
Ah, bah, voilà.
Un grand merci, Marie, de nous avoir parlé de ton métier passionnant et de nous éclairer sur les méthodes complémentaires associées à nos pratiques de soins. On va enchaîner tout de suite avec un son qui parle aussi de la notion de réappropriation de son espace, de son corps, de sa vie, avec un titre qui s'appelle « Vous êtes souveraine » par l'artiste Clara Isé. Donc, moi, c'est une amie qui me l'a fait découvrir, une amie avec qui je fais des collages féministes. Et elle me l'a fait découvrir lors d'un de nos ateliers parture parce qu'on a une playlist qui tourne avec plein de sons très empouvoirants. Et donc Clara Isé, elle a commencé à se faire connaître en 2018 avec un petit EP de 6 titres en français et en espagnol. Et c'est en 2023 qu'elle resplendit avec son album Océano Nox. Et depuis, elle enchaîne la tournée des petites salles. On vous laisse découvrir cette pépite.
Toi, tu as grandi sans rêver de sirène. Ton père te mettait des gifles et tu pensais je t'aime. Toi, tu as toujours refusé qu'on t'apprivoise. Et d'ailleurs, on dit de toi que tu n'es pas courtoise. Toi, tu t'es occupée de tous tes frères et sœurs. De ta mère aussi, d'ailleurs, quand elle était en pleurs. Toi, tu as aimé un homme passionnément. Mais tu ne sais pas pourquoi il est parti comme le vent. Vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine. Femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine. Musicienne, ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes. Lui, il t'a dit, je suis désolée, mais à de ces malheureux, on ne peut pas plonger. Alors tu t'es arrêtée et tu l'as oublié. Mais tout au fond de toi, la musique, tu l'as gardée. Et parfois tu l'entends tout bas te chanter. Un air que la nuit, en secret, tu vas murmurer. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait.
Voilà, Alain, quand il n'est pas là, il est quand même là. Le vote historique du Parlement réuni à Versailles le 4 mars, inscrivant l'IVG dans la Constitution, 780 pour, 72 contre, 50 abstentions, nous a amené à nous pencher sur la loi Veil du 17 janvier 1975.
En savoir un peu plus sur cette loi dite loi Veil. Le vote de cette loi est précédé par différents épisodes de la vie politique liés directement ou indirectement à l'interdiction de l'avortement, comme la législation de la contraception en 1967, le manifeste des 343 en 1971, le procès de Bobigny en 1972, puis le manifeste des 331 en 1973. Après le procès de Bobigny, le ministre de la Justice donne consigne au parquet de ne plus poursuivre pour les avortements. Un premier texte dépénalisant l'avortement est déposé sous la présidence de Georges Pompidou. À sa mort, Valéry Giscard d'Estaing, dans la campagne électorale, promet une loi lors de sa campagne à la présidence de la République en 1974. C'est le garde des Sceaux, Jean Le Canuet, qui devait défendre le projet de loi devant le Parlement, mais il refusa pour des motifs d'éthique personnelle. C'est donc Simone Veil, ministre de la Santé, qui est alors chargée de préparer le projet de loi. Elle présente ce projet devant l'Assemblée nationale et déclare, lors de son discours devant le député, le 26 novembre 1974.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme.
Le vote a fait l'objet de débats houleux et virulents. Jean Foyer, député UDR, majorité pourtant, qui mène l'opposition au projet de loi, interpelle la ministre de la Santé. N'en doutez pas, je cite, déjà des capitaux sont impatients de s'investir dans l'industrie de la mort et le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France ces avortoirs, ces abattoirs où s'entassent des cadavres de petits hommes et que certains de mes collègues ont eu l'occasion de visiter à l'étranger. C'est fort. Après quelques 25 heures de débat, la loi est finalement adoptée par l'Assemblée le 29 novembre par 284 voix contre 189, grâce à la quasi-totalité des votes des députés des partis de gauche et du centre, et malgré l'opposition de la majeure partie, mais pas de la totalité des députés de la droite, dont est pourtant issu le gouvernement dont fait partie Simone Veil. Après une navette législative, les deux chambres adoptent définitivement le texte proposé par la commission mixte, par 277 voix contre 192 à l'Assemblée et 185 contre 88 au Sénat. La loi est promulguée le 17 janvier 1975. Prévue initialement pour une période de 5 ans à titre expérimental, elle est reconduite sans limite de temps par la loi du 31 décembre 1979. L'IVG ne sera remboursée par la Sécu qu'à partir de 1982. Pour rappel, Jean-Marie Le Pen, alors président du Front National, devenu Rassemblement National, avait fait de la lutte contre l'IGV un de ses thèmes de prédilection, dénonçant, je cite, « la loi génocide ou la loi génocide anti-français ». Imaginez ce qu'a dû ressentir Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, à ces paroles.
Alors Alain, sinon, qu'en est-il de l'IVG ailleurs dans le monde ?
Donc l'inscription de la loi dans la loi de la Constitution, n'est pas anodine. En effet, si l'on regarde aux États-Unis, la Cour suprême a annulé l'arrêt fédéral Roe contre Wade le 24 juin 2022. Et depuis, 14 États ont interdit le droit à l'IVG et il est menacé dans 4 autres États. En Italie, il est presque impossible d'avorter en Sicile ou dans les Abruzzes, région de Pescara. 90% des gynécologues se disent objecteurs de conscience et refusent de pratiquer l'IVG. Donc les femmes sont obligées d'aller en dehors de la région et donc de dépasser les fameuses semaines, des 10 à 12 semaines selon les pays. Dans l'Union européenne, tous les pays autorisent l'IVG avec des conditions qui varient d'un pays à l'autre. En Pologne, l'IVG reste interdite sauf danger pour la mère, viol ou inceste. En Slovaquie, 11 propositions de loi visant à limiter l'accès à l'IVG ont été déposées sous la pression des lobbies catholiques influents dans le pays. Au Portugal, depuis le 27 juillet 2015, les frais liés à l'IGV sont à la charge des femmes. En Afrique, à Madagascar, l'IVG est un crime. Certains médecins la pratiquent clandestinement, risquant jusqu'à 10 ans de prison. En Afrique encore, la pratique de l'IVG est illégale en République du Congo, à Djibouti, en Égypte, en Guinée-Bissau, au Sénégal, en République démocratique du Congo. Les pratiques clandestines sont courantes et mettent en danger la vie des femmes.
Bon, personne n'est parfait, donc voilà, on aura entendu IGV plusieurs fois au lieu d'IVG, mais c'est pas grave. Merci beaucoup Alain pour cette chronique qui vient remettre un petit coup d'œil historique sur un moment historique qu'on vit aussi en France par l'intégration de la loi qui garantit la liberté, et c'est important de préciser, la liberté d'avortement dans la Constitution. Donc de tout temps, et en tout cas on l'espère, la Constitution garantira en France la légalisation de l'avortement, mais malheureusement elle ne garantit pas le droit, et on peut prendre le temps de le mentionner, parce que le droit à l'avortement, quand un droit est inscrit dans la Constitution, il oblige l'État et le gouvernement qui l'exécute à offrir les moyens aux personnes qui le souhaitent d'avoir recours à l'avortement. Donc offrir les moyens, ça veut dire ouvrir des centres, sensibiliser, faire de l'éducation et de la sensibilisation sur cette question, ça veut dire déculpabiliser, ça veut dire accompagner, ça veut dire énormément de choses. Et toutes ces choses-là, elles ne sont pas présentes malheureusement dans ce texte qui est intégré à la Constitution, qui garantit certes une liberté, mais pas encore à droit. Donc il y a encore du long chemin à parcourir, et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de continuer à se mobiliser. On a vu aujourd'hui, grâce à vous toutes et tous qui avez participé à cette émission, un grand merci. On a vu que les femmes font bouger les lignes, et ça fait vraiment plaisir. Elles le font dans tous les domaines, là on a parlé de la santé, mais elles le font sur scène, elles le font en prenant la parole, elles le font en coulisses quand elles se préparent avec leurs collègues, elles le font en venant en plateau radio, en étant à la régie. Donc tout ça, ça fait bouger les lignes et c'est important de continuer. À Caen, cette semaine, on est aussi dans la semaine des féminismes. On vous invite ce soir, si vous le souhaitez, à vous rendre place de la République. Si vous avez encore envie de voir Luciole, elle va nous faire un super beau stand-up de 30 minutes et ce sera un moment aussi très festif. Et demain, bien sûr, Journée internationale des droits des femmes, on vous invite à rejoindre les manifestations près de chez vous. Il y en a de très nombreuses, de très belles marches, tout en festivité. Et donc, merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette émission. Merci Marion à la régie, merci Thaïs, David et Alain pour vos super chroniques. Merci bien sûr Marie et Luciole, on était très contentes de vous recevoir. Merci à Radio Pulse et à Station B qui nous permettent d'être diffusés. Merci à Rémi qui nous aide sur la régie à chaque fois. Vous pourrez nous réécouter sur l'Arte Blog Radio ainsi que sur Spotify et Deezer. C'est tout pour cette émission. Merci à tous et à toutes.